On va continuer aujourd'hui le cycle initié par Charles il y a trois dimanches à peu près, sur les paraboles. Les paraboles qui nous permettent de comprendre mieux ce que veut dire le Seigneur. C'était son but, de parler en paraboles, non pas en paraphrases, mais en paraboles, pour que les gens comprennent avec des exemples concrets, parce que notre esprit est limité, et parfois dans ce que dit le Seigneur, eh bien, ça nous paraît un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à vouloir vous parler de la parabole du bon grain et de l'ivraie, que vous savez par cœur, j'imagine, presque. Donc on a souvent, qu'on connaît, qu'on a entendu, qu'on a lu, mais je crois qu'il est toujours important de pouvoir relire certains textes. Et cette parabole, contrairement au texte qu'a lu Claude tout à l'heure, n'existe que dans un des évangiles, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, et elle fait partie de ce qu'on appelle... Ah pardon, si je mettais en marche, ça serait mieux. Ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Elle nous parle du royaume de Dieu, du royaume céleste, mais aussi du royaume terrestre, parce que le royaume de Dieu existe d'ores et déjà. Voilà quel est le texte. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le blé est l'ivraie. Le blé, tout le monde connaît, au moins sous forme de farine ou de pain. C'est ça, surtout quand c'est cuit. Mais c'est tellement beau un champ de blé. Sous le soleil, quand il y a un peu de vent, quand on voit les épis qui oscillent, c'est vraiment magnifique. Donc le blé, le nom savant, c'est triticum. Soit aestivum, pour le blé mou, donc le froment, soit durum, pour le blé dur. On mange surtout du froment, essentiellement. Quant à l'ivraie, son nom scientifique, c'est l'olium temulentum. Temulentum, en latin, signifie osciller, un peu divaguer, un peu aller pas tout à fait droit. Et effectivement, la caractéristique, enfin, une des caractéristiques de l'ivraie, c'est de comporter des toxiques, ce qu'on appelle des alcaloïdes, qui, lorsqu'on les mange, rendent quasiment ivre. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait l'herbe de l'ivrogne, l'herbe de l'ivresse. Et c'est ça qui a donné l'ivraie. Il y a d'autres parasites qui se greffent sur certaines plantes, mais l'ivraie, c'est caractéristique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas manger l'ivraie. Parce que on devient comme ça et on peut même en mourir. À grosse dose. Et l'autre nom de l'ivraie, en grec, c'est zizanion, qui a donné zizanie en français. Et on comprend pourquoi. On comprend bien l'image que cela recouvre. Le blé et l'ivraie sont deux plantes qui se ressemblent de façon extrêmement importante, en particulier lorsqu'elles commencent à pousser. À maturité, par contre, il y a des différences que les cultivateurs connaissent bien, mais lorsqu'on voit de loin... Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai éteint. On a normalement un truc pour éclairer, voilà. Quand on voit des épis d'ivraie ou des épis de blé... Bon, là en plus l'image n'est pas très grosse, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, c'est vraiment pas évident de faire la différence. Mais quand on regarde un peu plus près, on voit que les épis, enfin les grains de l'ivraie, ne sont pas comme ceux du blé. Ceux-là sont plutôt vers l'extérieur, alors que ceux du blé sont très serrés. Et une autre caractéristique, c'est que le blé est plus haut que l'ivraie, à maturité. Au départ, c'est à peu près pareil, mais lorsqu'ils arrivent tous au moment de les recueillir, si du moins on voulait recueillir l'ivraie, eh bien le blé est plus haut que l'ivraie. Mais l'ivraie, normalement, elle n'existe pas. Vous vous rendez bien compte qu'un paysan, il ne va pas s'amuser à semer de l'ivraie quand il sait que c'est toxique, et que s'il la cueille en même temps que son blé, eh bien son blé, il ne pourra pas le vendre. Et en fait, les seules circonstances antérieurement où il avait de l'ivraie dans les champs de blé, c'est quand un ennemi venait planter de l'ivraie pour faire du mal à son voisin. Il y a, paraît-il, dans l'histoire ancienne, une mauvaise tradition qui faisait que lorsqu'un cultivateur n'était pas content d'avoir pas pu acheter un champ, eh bien, pour punir, entre guillemets, celui qui avait pu l'acquérir, il allait planter de l'ivraie lorsque l'autre venait de semer son blé. Et donc son champ était foutu. Et foutu pour longtemps en plus, parce que si on laisse l'ivraie à maturité, elle va se ressemer de façon naturelle. Donc d'où vient l'ivraie ? Eh bien, c'est quand il y a un ennemi qui a fait cela. Et on va voir que l'ennemi du monde, l'ennemi de Jésus, c'est le malin, c'est le diable. Et ce qui est logique, les serviteurs, quand ils voient qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse au milieu de la bonne, et c'est ce que nous faisons tous quand nous regardons notre jardin, si nous voyons qu'il y a non pas des mauvaises herbes, comme disent les botanistes, mais des herbes adventices, parce qu'elles ne sont jamais inutiles. On considère qu'elles sont mauvaises, mais elles ont quand même... Si elles sont là, c'est bien qu'elles ont quelque chose à voir. Mais les serviteurs, aussitôt, voulant rendre service à leur maître, ont dit « Est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher ? Puisqu'il y a de l'ivraie, on sait que ça va contaminer ta récolte, qu'elle ne va plus rien valoir, donc on peut essayer de faire les choses avant. » Et qu'est-ce qu'il dit ? Non. Non, pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'en arrachant l'ivraie, ils arrachent en même temps le blé. Et pourquoi ? Parce que les racines de l'ivraie et du blé sont totalement entremêlées. Et si on arrache un brin d'ivraie, on est à peu près sûr d'arracher en même temps le brin de blé qui est à côté. Et par conséquent, il ne faut pas arracher parce que sinon, on va détruire la récolte quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on veut récolter du blé quand il y a eu de l'ivraie en même temps, eh bien, comme le blé est plus haut que l'ivraie, en fait, on coupe en haut. Donc, comme ça, on ne récolte que les épis de blé et non pas l'ivraie qui est au-dessous, qui ne risque pas de venir se mélanger aux épis de blé. Et donc, ça donne ça quand un champ vient d'être ramassé, les épis de blé, et dessous, l'ivraie qui reste et qui n'a pas été cueillie. Et pourtant, qu'est-ce que dit le Seigneur dans cette parabole ? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le royaume, enfin dans le monde terrestre, humain, parce que Si on arrache, on arrache tout. Alors que le Seigneur dit arracher. C'est donc qu'il y a bien quelque chose de plus dans cette parabole. Et que le Seigneur va être capable de faire la différence à ces moissonneurs, mais qui ne sont pas les moissonneurs que nous pourrions être. Après, une fois que Jésus a donné cet exemple parfaitement concret, parce qu'à l'époque, les gens voyaient des champs de blé parfois mélangés à de l'ivraie, un peu partout. Nous, des champs de blé, on en voit, on passe à travers, on regarde, c'est joli, mais ce n'est pas notre culture quotidienne. Et pourtant, il y a quelque chose d'un peu étonnant et qui nous est donné dans la deuxième partie de cette parabole, à partir du verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera fait de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et voilà l'explication donnée par Jésus lui-même de cette parabole. Mais les disciples eux-mêmes, qui pourtant étaient au contact de Jésus au quotidien, demandent « Explique-nous ». Donc on peut imaginer que le peuple que nous sommes, même si nous avons été accueillis par Dieu, même si nous connaissons Dieu, si nous connaissons Jésus, eh bien parfois nous avons du mal à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et quant au peuple lui-même, on comprend parfaitement que malgré les exemples très concrets, eh bien il n'est pas réalisé ce que voulait dire Jésus face à eux. Et il était donc nécessaire qu'il l'explique, et de façon parfaitement claire. Et voilà toutes les explications. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, au sens large du terme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Il se décrit ainsi, je n'ai pas vérifié, plus de 70 fois dans les évangiles. Donc là, il n'y a pas de doute sur la signification du Fils de l'homme. Le monde, c'est ce qui n'est pas l'Église. C'est ce qui est autour, mais qui n'est pas l'Église. Le Seigneur nous a bien dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Dimanche dernier, Charles nous en a bien parlé. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Jean 17, 14. Le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité, parce qu'il est hermétique, il est fermé à cela. Il est Jésus et ses disciples. Phrase forte, le monde est Jésus et est ses disciples. Ses disciples d'alors, ses disciples d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous. Et parfois, effectivement, il y a de la haine envers nous, de certaines personnes, malheureusement parfois même dans nos familles, avec des réactions qui peuvent être très violentes, vis-à-vis de nous. Et les fils du royaume, ce sont les justes, ceux qui ont été justifiés, non pas ceux qui se croient justes, mais ceux qui ont été justifiés. Et justifiés comment ? Par qui ? Par quoi ? Par la foi, et non pas par les œuvres, ça nous le savons bien. Justifiés par son sang, le sang que Jésus a accepté de verser pour nous. Ceux qu'il a appelés, nous, mais encore faut-il avoir répondu, eh bien, il nous a justifiés. Et si nous sommes justes, c'est grâce au sang de Jésus. C'est lui qui nous rend justes. Et c'est la foi en Jésus, la foi en Dieu, qui nous rend justes. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous prétendre justes, ni par nos œuvres, mais par la foi seule. Et livrés, par contre, ce sont les fils du malin, ceux qui font le mal en connaissance de cause. Ils ont entendu, et là, ceux qui plantent l'ivraie dans le champ du voisin, ils le connaissent, ce voisin. Ils savent très bien qu'ils vont faire du mal. Eh bien, c'est ça, les fils du malin. C'est ceux qui font le mal en toute connaissance de cause, en refusant l'appel de Jésus, en refusant les bras ouverts de Jésus, en refusant de réaliser qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont nécessairement besoin du sacrifice de Jésus pour être justifiés et pour sortir de cette sphère du malin. Et la moisson, c'est la fin du monde. C'est pas aujourd'hui, c'est pas la moisson annuelle, estivale, c'est la fin du monde dans cette parabole. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le royaume de Dieu est déjà sur terre. Et donc nous attendons cette fin du monde. Nous ne savons pas si nous la verrons. Peut-être serons-nous partis avant. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, nous dit Luc. Et dans la première épître de Jean, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Car même si Jésus est venu sur terre, même s'il a donné sa vie pour nous, même si Dieu l'a envoyé, Dieu s'est fait homme sur terre, eh bien, pour autant, le malin existe encore. Il rôde, il essaie de nous attraper, il essaie de nous détourner. Et donc, même si le royaume de Dieu a commencé, celui du malin, ben là, l'existence du malin n'est pas contestable. Nous ne sommes pas du même monde, mais on est ensemble pour longtemps. Ça, c'est l'ivraie qui dit ça au blé, le malin qui dit ça aux chrétiens, parce qu'il est à côté de nous et il le sera tant que la fin du monde ne sera pas arrivée, tant que Jésus ne sera pas revenu. Il est en laisse, certes, il est tenu, mais il existe et il essaie d'agir toujours et de semer la zizanie. Donc la parabole ne concerne pas l'Église. L'Église en tant que communauté, en tant qu'ensemble. Alors ça, c'est une phrase un peu riche, hein, c'est pas moi qui l'ai écrite, je l'ai trouvée. Donc cette parabole concerne l'attente eschatologique et non la détérioration ecclésiastique. C'est-à-dire qu'elle nous parle de la fin du monde et elle ne nous parle pas de l'état actuel de l'Église qui, dans certains cas, peut effectivement se dégrader, se détériorer. Mais Jésus parle bien de ce qui va se passer tout à fait à la fin, où là, ces anges, eux, seront les moissonneurs. Ils seront capables de faire le tri. Alors que nous ne pouvons pas le faire. Et ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous d'essayer de faire le ménage. Nous n'avons pas à juger de l'Église au sens large du terme. Il y a plusieurs siècles, mais même peut-être encore actuellement, des personnes, des chrétiens même, qui ont pensé pouvoir juger et mettre à l'anathème certains autres. Des populations entières, les guerres de religion, les combats entre catholiques et protestants. Certains disaient, eux, il faut les jeter dans la fournaise. Ils ne sont pas dignes. Mais nous n'avons pas ce droit de juger. Dieu seul jugera à la fin du monde. Il dit bien, laisse pousser les deux jusqu'à la moisson. Parce que Dieu jugera le monde entier lorsque son heure sera venue. Ah. Qu'est pas ça? Comment ça se fait ça? Bizarre. C'est la zizanie, oui. Nous n'avons pas à être les juges. Et pourtant, certains ont pu utiliser ce texte pour dire qu'on pouvait tout tolérer dans l'Église au sens local du terme. Mais ce n'est pas vrai. Pour autant, la discipline dans l'Église, doit exister. On ne peut pas juger le monde, on ne peut pas juger les autres, mais lorsque nous sommes en assemblée, il doit y avoir une discipline. Dans Matthieu 18, il nous est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Romains 16, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et dans l'épître de Tite, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Donc le Seigneur nous enseigne dans cette parabole ce qui concerne le jugement du monde. Mais il nous rappelle aussi par d'autres textes que nous devons dans l'Église, cherchez toujours à faire justement prospérer son royaume. nous n'avons pas la capacité, surtout pas l'autorisation, de juger les autres. Mais à l'intérieur de l'Église en tant que communauté, nous devons toujours chercher à être juste, droit, et à ne pas accepter ce qui serait contraire à la parole de notre Seigneur. Et ce n'est pas dans tous les cas, mais le Seigneur termine cette parabole avec un avertissement important. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ne vous contentez pas d'écouter, mais entendez ce que le Seigneur dit. Prenez-en de la graine, si j'ose dire. On parle de blé. Mais faites-en votre quotidien. Faites-en votre nourriture spirituelle, jour après jour. Parce que tout cela nous sera compté le jour où nous serons devant le Seigneur. Il ne faut pas croire que parce que nous avons reconnu Jésus, nous pouvons maintenant faire n'importe quoi. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas ce qu'il faut prendre comme... J'ai dit l'inverse, pardon. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, pardon. Mais il ne faut pas prendre ça comme règle de vie, loin de là. Le Seigneur nous a fait grâce, mais il nous demande aussi de continuer sans cesse et sans cesse à nous sanctifier. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, ne cherchez pas, ce n'est pas écrit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. C'est vrai parce que nous avons besoin, c'est vrai, que tu nous parles aussi par des paraboles. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour celle-ci, en plus, tu nous l'as expliqué. Mais que nos oreilles qui ont entendu cela mettent vraiment en cohérence et en continuité nos pensées, notre cœur, nos actes. Tu nous enseignes, Seigneur, et ce n'est pas pour que nous laissions tomber tout ce que tu nous donnes, mais au contraire, que nous puissions le faire fructifier. Merci d'agir dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Merci d'agir dans nos esprits. Merci de nous conduire encore, jour après jour, toujours plus, vers la stature parfaite que tu as pour chacun d'entre nous. Amen.